Bonjour à tous. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à part un joyeux Noël dans la reconnaissance? Ça nous fait du bien de louer Dieu. C'est ce que nous sommes censés faire, louer Dieu et le glorifier à tout moment pour ce cadeau magnifique qu'il nous a fait il y a si longtemps, mais qui est encore valable aujourd'hui. La Bible dit que Christ viendra sauver ceux qui auront aimé sa venue. Prions. Seigneur Jésus, nous sommes plusieurs à avoir aimé ta venue. Cette venue qui signifiait que tout allait changer entre nous et toi. Permets, Seigneur, que nous puissions comprendre aujourd'hui ce que cela signifie, que Christ est roi, que le bébé né, couché dans la crèche, est réellement ton fils. Permet que nous puissions être tellement touchés par cette vision nouvelle de Christ que nous puissions avoir envie de vivre pour lui. Donne-nous d'être heureux en toi afin que nous vivions pour toi tous les jours de notre vie. Amen. À ce moment de l'année, nous réfléchissons naturellement au bébé qui est né et c'est normal. Mais 8 milliards de personnes vivant aujourd'hui sur Terre ont eu la même expérience d'être bébé sur notre planète. Alors pourquoi est-ce que ce bébé est si différent? La question à laquelle je voudrais répondre ce matin, c'est qui est le bébé qui était dans la crèche? Qui est le bébé? Qu'est-ce qui le distingue de tous les autres qui sont nés avant lui et après lui jusqu'à aujourd'hui? Alors bien sûr, il y a quelques particularités. Il est né à Bethléem. Ben, tout le monde peut dire ça. Bethléem est un petit patelin. Et là, à Bethléem, il y a un sens d'être né là parce que c'est la ville royale, la ville dont le roi David, célèbre roi d'Israël, était issu. On attendait quelque chose, on attendait quelqu'un de Bethléem. Et Jésus est né là. Deuxième chose qui le distingue un peu des autres, c'est qu'il s'appelle Jésus. Beaucoup de gens s'appellent Jésus aujourd'hui, surtout dans les pays hispaniques, n'est-ce pas? Jésus signifie « il sauve ». Un indice qui n'était pas comme les autres bébés. Et puis troisièmement, il a été conçu d'une manière unique. Ça c'est vrai, ça le distingue de tous les autres. Mais un bébé reste un bébé. Et nous ne pouvons pas savoir beaucoup sur lui avant de voir ce qu'il va devenir en tant qu'adulte. Nous devons prendre en compte qui était l'adulte Jésus et pas seulement le bébé Jésus. Qui est le bébé dans la crèche? Alors on pourrait dire beaucoup de choses, mais pour connaître la réponse, je vous invite ce matin à écouter une portion de la Bible, à faire comme si on n'avait pas toute la Bible, mais qu'on avait juste une petite lettre de la Bible, la lettre aux Colossiens, et même un extrait de cette lettre, parce qu'on ne va pas lire toute la lettre. Et de pouvoir se dire, à partir de cet extrait de la Bible, qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur le bébé qui est dans la crèche? Ce n'est pas un des récits classiques qui parle des bergers et des mages, ou de Marie et de Joseph, mais c'est un passage qui décrit de manière formidable Jésus, le Fils de Dieu. Et donc on va s'en servir un petit peu comme un télescope aujourd'hui, un télescope qui la nuit nous permet de voir loin dans l'espace, dans les profondeurs du ciel, dans beaucoup plus de détails, et qui nous permet de comprendre les mystères du ciel. Eh bien ce petit passage va être un télescope qui nous permet de voir en profondeur et dans les détails la richesse de ce Fils de Dieu. Lisez avec moi Colossiens chapitre 1, j'espère que vous l'avez trouvé dans votre Bible. Colossiens chapitre 1, versets 13 à 20. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Nous comprenons tout de suite en regardant ces versets qu'il s'agit d'un fils bien-aimé, verset 13, et il est aussi roi, il a un royaume. Mais nous allons nous concentrer sur trois choses, trois vérités fondamentales sur qui est ce bébé. Tout d'abord, il révèle pleinement Dieu. Il révèle pleinement Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, dit le verset 15. Vous savez, c'est très difficile de savoir comment est Dieu, parce qu'il est invisible. On ne peut pas le voir, on ne peut pas s'approcher de lui. Il habite dans une lumière dont nous ne pouvons pas nous approcher. Il est au-dessus de nous. Et il est d'une autre nature que nous. Qui sommes-nous pour nous approcher de Dieu ? Mais Dieu se rend, lui qui est invisible, il se rend visible par ses œuvres et il se rend visible parfaitement par son image. Alors oui, nous sommes créés à l'image de Dieu, chacun de nous, mais ce n'est pas une ressemblance physique, bien sûr. Nous n'avons pas le même visage que Dieu, nous ne savons pas à quoi il ressemble et nous sommes tous différents. Mais nous portons son image, comme une pièce porte l'image du souverain, elle reflète qui il est. Et elle a de la valeur à cause du souverain dont la pièce porte l'image. Mais Jésus est plus que cela. Plus qu'un homme qui porte l'image de Dieu, Jésus est le reflet de sa personne. Pour qu'on puisse dire non seulement verset 15, il est l'image de Dieu, mais regardez le verset 19, « Toute la plénitude de Dieu habite en lui. » Alors certains fils ressemblent vraiment à leur père. On dit c'est tout lui. Parfois c'est une ressemblance physique, mais parfois c'est une ressemblance de caractère. C'est comme son père. Mais le fils, ici, reflète exactement le père. Il n'est pas la même personne que le père, mais il a la même nature, il a les mêmes attitudes, il a les mêmes qualités. Il a la même sagesse. Et donc nous, aujourd'hui, nous ne pouvons plus hésiter sur qui est Dieu. Il ne devrait plus y avoir de questionnement. Est-ce que Dieu est comme ceci ou est-ce qu'il est comme cela? Est-ce qu'il est comme je le pense ou est-ce qu'il est comme les autres croient? Comment est Dieu? Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus d'inconnu. Il s'est révélé pour qu'on le connaisse réellement. Et nous ne sommes pas libres de redéfinir Dieu à notre image, comme on voudrait qu'il soit. Le Fils est l'image de Dieu. Et même s'il demeure invisible aujourd'hui, nous pouvons le connaître. C'est là un aspect clé de Noël. Christ nous a révélé Dieu. Comme le dit Jean, un disciple de Jésus, personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, l'a fait connaître. Pour revenir à notre lettre aux Colossiens, les chrétiens du 1er siècle devaient comprendre, ils avaient reçu le même évangile que nous, ils avaient cru en Jésus comme nous. Ils n'avaient pas vu Jésus, ils habitaient autre part, mais ils risquaient de dériver de leur foi vers deux tendances, la philosophie ou le légalisme. La philosophie qui rend Dieu un peu abstrait, qui traite les idées, les concepts, plutôt que la vérité, la vie. Ne vous laissez pas piéger par la philosophie. Cet auteur qui décrit le Fils va dire ensuite, au chapitre 2, versets 8 et 9, regardez cela, chapitre 2, versets 8 et 9, « Faites attention, dit-il aux chrétiens, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Vous voyez ce qu'il est en train de dire là, c'est que parce que Christ a toute la plénitude de Dieu en lui, on ne devrait pas chercher plus, on ne peut pas trouver plus ailleurs dans la philosophie ou dans la pensée, la sagesse humaine. Mais deuxièmement, il y a le risque de légalisme, c'est tout ce qui est d'ajouter des règles supplémentaires, des régimes, des disciplines personnelles, des rites, des interdictions, pas les interdictions de Dieu, parce qu'il y a des interdictions de Dieu, mais des interdictions supplémentaires à la Bible, qui sont en fait des enseignements humains. Et au chapitre 2, verset 22, il dit « Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. » Généralement, nous pensons, je pense, que si quelqu'un dérive de la foi chrétienne, ce sera pour être tenté de quitter la foi et d'arriver vers l'immoralité. C'est là la raison, la cause principale, qu'il veut être attiré par l'immoralité. Mais en fait, non. Il n'y a pas que l'immoralité qui peut nous tenter, il y a aussi la rigueur. Il y a des gens qui veulent être vraiment super rigoureux, avoir encore plus de règles, de lois et de disciplines. Ou il y a des gens qui peuvent être attirés par la philosophie, que la foi devienne quelque chose d'abstrait, de philosophique, d'intéressant, mais pas vraiment de personnel. Et on oublie cette qualité de la relation d'un enfant avec son Sauveur. Nous ne devons pas perdre de vue qui est Christ. Dans l'année qui vient, nous ne savons pas ce qui nous arrivera. Mais on pourrait perdre beaucoup de choses. On pourrait perdre de l'argent, on pourrait perdre des amis qui tournent le dos, on pourrait perdre des êtres chers qui vont décéder dans l'année qui vient. Mais malgré tout ce que nous pourrions perdre, ne perdons pas notre foi. Ne perdons pas notre foi. C'est l'appel qu'il lance au chapitre 1, verset 23. « Il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature. » Est-ce que nous sommes prêts à rester fondés, attachés à notre foi? Imaginez que vous ayez un tableau d'une très grande valeur. Vous avez trouvé ça chez vous et il s'agit d'une œuvre d'un peintre célèbre qui a vraiment de la valeur. Et le musée des Beaux-Arts, ici à Bruxelles, veut acheter votre tableau. Ce n'est pas vous qui l'avez peint, évidemment, mais c'est à vous que ça appartient. La directrice générale a vu que c'était authentique et a fixé un prix qu'elle est prête à payer pour vous l'acheter. Elle vous donne rendez-vous au musée des Beaux-Arts à Bruxelles. Mais quand vous êtes là, vous arrivez là, vous apprenez la nouvelle qu'en fait la directrice générale est en réunion et il faudra encore patienter 2 heures avant de pouvoir la voir. 2 heures devant le musée, il fait sombre, c'est la nuit, c'est la fin de la journée. Et vous devez attendre 2 heures. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez laisser le tableau traîner dans le parc royal pendant que vous allez vous amuser en ville pendant 2 heures? Bien sûr que non. Est-ce que vous déballez le tableau pour essayer de peindre vous-même un truc au-dessus qui pourrait être un peu meilleur que ce qui a déjà été fait? Mais évidemment que non, vous n'allez pas improviser ou améliorer quelque chose qui est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez calme, vous restez patient et vous attendez tout simplement avec ce que vous avez qui est très précieux. La vie chrétienne ressemble à cela, à attendre, à tenir bon avec ce que nous avons qui est déjà très précieux, plutôt que d'improviser ou de laisser de côté et d'aller faire autre chose. La connaissance de Dieu est un cadeau. Alors gardons-le, ce cadeau précieux. Il s'est révélé. La deuxième chose que ce texte nous apprend, c'est qu'il règne sur tout. Jésus n'est pas un bébé ordinaire. Le Fils de Dieu règne surtout, regardez au verset 15, il est le premier-né de toute la création. Alors ça veut dire qu'il est né le premier? Non. On peut voir cette phrase premier-né et penser que ça veut dire ça. Mais en fait, il dit, tout a été créé par lui et pour lui. Verset 16, ça veut dire qu'il n'est pas la première créature. Vous comprenez? C'est pas que Dieu a tout créé, y compris le Fils, mais que le Fils a tout créé. Il n'est pas dans le tout qui a été créé. Il n'a pas été créé. Il est séparé de tout ce qui est créature créée. Dieu, le Père, n'a pas eu une femme pour donner naissance à un fils. C'est très important de comprendre que le Fils de Dieu existait depuis toujours, de toute éternité. Il était là avec Dieu. Il était Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit, il était là au commencement. avant que les choses commençaient à être créées, Dieu était là. Et fondamentalement, Dieu est un Dieu d'amour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là et aimaient avant que nous étions là et que nous étions créés. Alors quand la naissance du Fils de Marie arrive, c'est le Fils de Dieu qui prend une nature humaine. Le bébé humain, Jésus, va être joint de manière permanente à une nature, la nature de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, Dieu lui-même, pour qu'on puisse dire « Il est Dieu avec nous ». Par les films de Marvel, nous sommes habitués à des super-héros. Hulk est un exemple. La plupart du temps, en fait, c'est un homme ordinaire, comme moi ou vous. Et puis, il se transforme en monstre vert quand il est fâché, très puissant. Jésus n'est pas un super-héros comme ça. Il avait réellement une nature humaine, tout le temps. En tant que bébé, il était fatigué, il avait faim, il avait soif, il pleurait, bébé normal. En tant qu'homme, il était fatigué, il avait faim, il avait soif, il pleurait, comme un homme normal. Il ne pouvait pas se transformer, voyez-vous, et changer de forme et être invincible. Si on le frappait, il avait mal, il saignait. Quand il était tué, il a donné sa vie. C'était possible qu'il meure. Et donc, si vous l'avez vu en tant que bébé ou en tant qu'homme, vous n'auriez pas vu quelque chose de particulier. Il ne sortait pas du lot, si je peux dire ça comme ça. Il n'était pas tellement différent des autres dans son apparence. Par contre, si vous étiez proche de lui et que vous aviez vu ces années de son ministère, il y aurait des moments où vous auriez dit « Qui est cet homme ?» Comme les disciples qui ont dit « Qui est cet homme ?» Même les vents et la mer lui obéissent. Et la réponse à « Qui est cet homme ?» se trouve ici. Il est le Créateur de tout. Le ciel et la terre, le visible et l'invisible. Pensons à tout ce qui est spirituel, invisible, les anges, les démons, le paradis. Et il met en avant des aspects puissants de la création. Vous voyez au verset 16, quand il dit le visible et l'invisible, et il ne dit pas le vent, les microbes, les petites choses invisibles. Il parle de trône, de souveraineté, de domination, d'autorité, pour montrer que Jésus est au-dessus de tout cela. Il a autorité sur les autorités. On pense évidemment à ce qui est humain, les rois, les présidents, l'empereur, mais aussi à ce qui est spirituel, les forces dans les lieux célestes, les forces des ténèbres rangées contre Christ. Christ est souverain sur cela. C'est tellement encourageant, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous voyons l'actualité dans le monde et on se dit qui va arrêter certains régimes, certains dirigeants politiques, il semble impossible que quelqu'un les arrête. Mais Christ est souverain. D'autre part, nous voyons les pensées des gens qui vont à la dérive, certaines choses qui sont remises en question aujourd'hui. Et on a l'impression que les gens ne vont jamais faire marche arrière sur leurs pensées d'aujourd'hui. Mais Jésus est néanmoins souverain sur les pensées des gens. Il va accomplir son plan. Il va sauver son Église. Et cela, justement, il le confirme au verset 18, il est le chef de l'Église. On revient à l'expression « premier-né » parce qu'il est revenu, il est mentionné à nouveau au verset 18, « le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier ». On comprend ici que ça veut dire « être le premier ». Quand on entend « premier-né », ça veut dire « premier », pas « né ». Quand concentrez-vous sur le mot « premier ». Parce que la mort ne donne pas naissance. Et donc, s'il est premier né d'entre les morts, ça veut dire qu'il est premier sur la mort. J'aimerais réfléchir un petit peu avec vous par rapport à ça. Être premier né. Un animal qui est premier né a plus de valeur que les autres, parce que lorsque un agneau est né, ou un bœuf est né, le premier, vous ne savez pas s'il y en aura d'autres de cet animal. Et donc, lorsque vous faites ce sacrifice du premier-né, c'est un sacrifice précieux, un sacrifice coûteux pour vous. Quand on a un premier-né dans une famille, Le premier-né est sûrement celui à qui nous donnons plus d'autorité, parce que nous donnons plus rapidement la responsabilité au premier-né, n'est-ce pas, pour s'occuper de ses frères et sœurs. Et donc Jésus à la fois le sacrifice précieux premier-né et celui qui a autorité sur ses frères. Il a la responsabilité. Et en tant que premier ressuscité, il est le premier-né, le vainqueur sur la mort. Il a raison de nous dire au chapitre 2, verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Il y a un troisième élément, troisième aspect que nous ferions bien de traiter ici, c'est comprendre le travail de Christ. Nous avons vu que Jésus a révélé Dieu, nous avons vu qu'il était lui-même Dieu, qu'il règne sur tout, qu'il est puissant, il est le Créateur, mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il a accompli? Et c'est le début et la fin de notre lecture qui nous donne la réponse, verset 14. « En qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Et verset 20, à la fin de notre lecture, il a voulu, Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. C'est la troisième vérité. Il réconcilie la créature avec le Créateur. Fils de Dieu est celui qui est capable de réconcilier la créature que nous sommes avec notre Créateur. Je sais que le péché est toujours quelque chose de délicat à mentionner. Nous aimons penser que nous ne sommes pas vraiment pécheurs, n'est-ce pas? Et il y a toujours quelqu'un de pire que nous. Ce qui nous rassure que nous sommes, oui, peut-être imparfaits, mais on n'est pas vraiment mauvais. Mais nous devons réfléchir un peu plus à cette question du péché. Avez-vous jamais entendu des propos qui vous sont revenus par quelqu'un d'autre? Un enfant, un ado? Et c'est assez moche, mais vous vous rendez compte que c'est en fait votre attitude, vos mots, peut-être pas avec la même forme, peut-être pas avec le filtre que vous mettez, mais c'est quand même vos sentiments qui reviennent vers vous. Et c'est pas beau, n'est-ce pas? La Bible est décrite comme un miroir, et quand vous regardez dans le miroir, vous voyez parfois des choses désagréables, l'égoïsme, on est conflictuel. Nous sommes difficiles, nous sommes insensibles. Et cela ne nous met pas en bonne relation avec Dieu. Et le péché est un poison, en fait. C'est un problème fatal que nous avons. Nous sommes tous infectés par cela. D'où la nécessité de trouver le pardon de nos péchés. Et je comprends le verset 20 comme disant que Jésus a réconcilié la terre avec le ciel. Là où le ciel était en colère contre la terre, Christ a apporté la paix dans le ciel. Et là où nous étions en colère contre Dieu et éloignés de Dieu, il apporte la paix envers nous. Il veut que nous puissions être réconciliés avec Dieu qui est aux cieux. Comment est-ce possible? Parce que Jésus a fait la paix, comme on l'a entendu la semaine passée, par son sang versé sur la croix. Vous voyez que les deux premiers points que nous avons entendus aujourd'hui ne sont pas vraiment de bonnes nouvelles. Dieu est notre Créateur, il a la puissance absolue. C'est une bonne nouvelle, ça? Pas à moins que je sois en bonne relation avec lui. À moins que nous soyons pardonnés. Nous ne pouvons pas vivre avec ce Dieu parfait et tout-puissant. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est bon et il veut nous réconcilier avec lui. Donc nous pouvons être soulagés ce Noël. Mais aussi nous devons mettre le péché de côté. Nous devons faire mourir ce qui est du péché en disant « maintenant c'est du passé ». Nous ne devons pas revivre dans le péché que nous avions auparavant. Il y a une coupure. Il nous a rachetés, dit-il aux chrétiens, pardonnés de nos péchés. Une image peut nous aider à comprendre. Vous savez, les sacs oranges sont venus à Bruxelles. Entrée en vigueur, c'est obligatoire cette année pour ceux qui habitent à Bruxelles, c'est pour les déchets alimentaires. Et il y a un seul inconvénient, c'est qu'il y a un seul moment de collecte de ces sacs oranges, et ce n'est pas en même temps que les autres sacs. Et donc il ne faut vraiment pas louper ce moment de la semaine. Pourquoi pas? On a oublié, et on trouve qu'on doit garder nos déchets encore une semaine. Et ça se décompose, ça pue, c'est désagréable, et vraiment on veut s'en éloigner. Mais tenir à notre péché, C'est comme garder délibérément nos poubelles oranges. Quelle drôle d'idée, n'est-ce pas? Je tiens à mon amertume. Ça va se décomposer, ça va puer dans ma vie. La jalousie, la convoitise. Mais débarrassons-nous de cela. Pas envie de ça dans la maison. Or, alors ça signifie, comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ça? Ça signifie être très précis avec Dieu. On peut être honnête avec Dieu, Dieu nous connaît. Et lui dire dans la prière, je reconnais que ça c'était une pensée mauvaise. Ça c'était une mauvaise attitude, une attitude qui te déplaît. Pardonne-moi et aide-moi à lutter contre cela. Je sais que c'est débarrassé par la croix de Christ. Je sais que c'est pardonné, mais maintenant aide-moi à lutter contre cela. Et à développer une autre attitude, qui est une attitude saine, que tu veux voir chez tes enfants. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui, on va terminer sur cela, ça nous parle de notre mission et de notre avenir. La venue de Jésus dans le monde change tout. Parce qu'il est venu réconcilier la terre avec le ciel, les créatures avec notre Créateur, ça change notre mission. Ce n'est pas une surprise qu'après avoir évoqué Christ, dans toute sa splendeur et dans sa grandeur, il va dire, l'auteur va dire au verset 27-28, « Christ en vous, l'espérance de gloire, c'est lui que nous annonçons. » Nous annonçons celui qui est souverain, qui est puissant et qui amène le pardon. Alors notre mission, que nous soyons membres ou pasteurs, jeunes croyants, ou très mûr dans la foi, notre mission est de parler de Jésus. Ne parlez pas que de votre foi. Ne parlez pas que de Dieu, comme si Dieu était quelqu'un d'abstrait, une idée vague d'un créateur. Beaucoup de gens croient en l'univers, n'est-ce pas, aujourd'hui? Non, nous devons parler de Jésus, celui qui change tout. Car en lui seul se trouve la solution pour le problème de l'humanité, notre péché. Et en lui, enfin, la voie est ouverte pour la réconciliation avec Dieu. Cette lettre qui a évoqué Jésus avec tellement de descriptions majestueuses termine par une demande de prière. Vous savez ce que Paul demande? Qu'il puisse annoncer le mystère de Christ. Mais aussi, il fait une demande aux chrétiens en disant qu'eux doivent faire attention à comment eux parlent, afin qu'ils parlent de Christ aux autres là où ils sont. Notre attitude devrait être comme celle de Pierre et de Jean qui, en acte 4, ont dit « Nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » On a compris qui est Christ. Il est le sauveur du monde. On ne peut pas garder ça pour nous. On ne peut pas ne pas en parler. Mais ça touche aussi, dernièrement, notre avenir, ce qui est devant nous. Je ne sais pas quel bonheur vous attendez. On attend tous quelque chose, n'est-ce pas? Peut-être que c'est un des cadeaux que vous avez vu sous l'arbre, en dessous du sapin, et tu penses que ça te rendra vraiment heureux, si c'est ce que tu penses. Pour les autres parmi nous, les adultes, ce n'est pas trop les cadeaux qui vont vraiment changer notre vie, mais peut-être qu'on a une perspective sur l'année prochaine. On se dit « enfin je vais avoir un nouveau projet ou un nouveau boulot ». Enfin une nouvelle relation se dessine et l'année 2024 sera une année différente. Peut-être c'est un voyage que vous avez planifié ou une promotion qui a été annoncée. Et vous vous dites, je serai heureux quand? Je serai heureux à ce moment-là. Alors c'est normal d'anticiper des choses. Pourquoi pas rêver de ce qui pourrait venir? Mais nous devons voir plus loin. Plus loin que le sapin. Et plus loin que l'année prochaine. Car si le Fils de Dieu est celui qui est venu du passé, qui existait de toute éternité, avant le commencement, et il est venu à Bethléem il y a 2000 ans, et il est aujourd'hui le chef de l'Église, ce même Jésus est aussi notre avenir. L'auteur inspiré n'hésite pas à évoquer l'avenir en disant, au chapitre 3, verset 4, quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Christ est notre vie. Il est venu une fois, il a apparu une fois, mais il apparaîtra une deuxième fois. Et s'il est notre vie, si nous ne vivons que pour lui, si c'est la seule raison que nous avons de vivre ici, alors son retour glorieux sera un moment de retrouvailles, où nous serons dans la gloire. Alors il n'y a rien de plus glorieux que la gloire de Christ, parce qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu, il est le roi du royaume, il est le centre de tout. Et que nous puissions être dans cette gloire est quelque chose d'extraordinaire. Christ, notre vie, notre raison d'être, notre oxygène, notre vie éternelle est en lui. Alors jamais nous ne verrons le bébé à Bethléem, mais nous verrons tous le Sauveur dans sa gloire. Serons-nous prêts pour ce moment beaucoup plus glorieux, beaucoup plus merveilleux que tout ce que nous pouvons anticiper sur terre, meilleur que tous les cadeaux que nous pouvons faire ou recevoir, que le souvenir du passé nous permette de vivre au présent et d'anticiper l'avenir, mais toujours avec Christ, sans lâcher Christ. Notre vie est en lui. Seigneur, nous voulons te prier que nous ne puissions pas nous détourner de l'espérance que nous avons en Christ. C'est parce qu'il est venu, parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il est mort à la croix, que nous avons cette espérance. Espérance de participer à ta gloire, de te voir, d'être amis avec toi pour toujours. Alors donne-nous d'être fidèles, donne-nous de lutter contre le péché, donne-nous d'avancer, pas seulement dans cette période de fête, mais aussi dans les années qui sont devant nous, avec les difficultés que tu connais, les épreuves qui seront là, mais de rester ferme et fidèle, parce que tu vaux la peine. Nous vivions pour toi. Amen.
Pour finir, nous allons chanter au 548 sur les ailes de la foi au peuple fidèle. Et nous voulons chanter debout.
Thank you.
Peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Joyeux Noël et pensons à ces paroles alors que nous passons ce temps dans la présence de notre Seigneur. Bonne semaine à tous.